Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas située à Paris. Alors il y en a plein à Paris, notamment une au 142 rue de Rivoli sur 99.9. Vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde en français 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez actuellement, là depuis quelques secondes, le numéro 1279 d'Invino Sud Radio. Au menu, une jolie balade qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Marc Benin, le gérant du domaine de Ravanès. Nous serons dans le Languedoc et le Vinocuis pour gagner un très joli cadeau, un coffret gourmand du château d'Oyac dans le Bordelais, un excellent vignoble. À mes côtés pour nous accompagner, Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure.
Bonjour Alain.
David Cabold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David.
Bonjour Alain.
Pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Eddy Bertrand, propriétaire du domaine du Clos de Loum. Nous sommes dans le Roussillon. Bonjour Eddy.
Bonjour.
Alors racontez-nous, qu'est-ce qui vous a conduit dans le Roussillon? Vous êtes deux frangins passionnés par le vin.
Exactement.
Et vous adorez la tramontane?
On adore le vent parce qu'on vient d'un peu plus à l'est. Nous, on était en Provence, on était à Toulon-Ouest avant de glisser un petit peu plus vers Perpignan, en terre catalane. Enfin, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'on est vraiment à la frontière entre
les Gavatches et les Catalans.
Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui nous a amené là-bas? Une opportunité, une rencontre, un coup de cœur.
Et vous êtes fan de vin au départ, tous les deux?
Alors, on est tous les deux dans le vin depuis le début. Moi, ouais. Je suis ingénieur agro de formation. J'ai travaillé que dans le vin, plutôt côté sud-est, on va dire, Bandol et Côte de Provence Sainte-Victoire.
Et Arthur?
Et mon frère, lui, il a fait le parcours encore plus vigneron que moi, c'est-à-dire BTS Vitiono, licence pro en alternance, et que des expériences après dans plusieurs vignobles et même à l'étranger. Il est parti aussi en Nouvelle-Zélande 2 ans pour vinifier, entre autres. Donc, ouais, voilà, on avait tous les deux un bagage technique vin.
Et comment vous avez atterri dans le Roussillon?
Eh bien, comme je vous dis,
Alors, qui avez-vous rencontré qui a bouleversé votre vie?
Eh bien, l'ancien propriétaire du domaine, qui s'appelle Éric Monet, qu'on a rencontré, qui était à la recherche de successeurs. Et nous, qui n'avions pas grand-chose qui nous attendait dans notre famille, on s'est projeté, pourquoi pas. Et puis voilà, le rêve.
Vous avez quel âge aujourd'hui?
Moi, j'ai 29 ans cette année,
et là,
le 16 mai. Arthur, il a 2 ans de plus que moi, 31 ans.
Oh, c'est un vieux, lui.
Et donc, vous avez acheté il y a combien de temps?
On a repris le domaine, mon frère est arrivé en 2020 pour faire le dernier millésime en tandem avec Eric, et moi je suis arrivé en 2021.
Voilà. Ah oui, c'est vraiment tout récent.
Ouais, c'est relativement.
Et donc
récent.
Combien d'hectares?
Alors on a repris, on avait 12 hectares. On a fait un petit peu de tri depuis, on en a arraché 1,5 qu'on est en train de replanter. Voilà. Mais l'idée c'est de rester sur une taille de 15 hectares maximal. Ouais.
Ouais. Et vous êtes où exactement dans le
Alors, on est entre la vallée de la Glie et la vallée de la Tête. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais quand vous partez de Perpignan en direction Prades, concrètement, vous enfoncez un petit peu dans les Pyrénées. Et on est sur les premiers contreforts à l'est des Pyrénées, entre la vallée de la Glie et de la Tête. Et la particularité de ce terroir, c'est déjà l'altitude, parce qu'on commence à 350 mètres et on a des parcelles qui montent jusqu'à 600-650 mètres. Donc, un beau marquage d'altitude avec de la fraîcheur. Et puis, les sols qui sont composés de granit, essentiellement, et de schiste. Donc voilà, des sols dont on connaît la qualité.
Et l'accueil des Catalans, parce qu'on l'a vu côté rugby, là, Toulon, ils ont bien aimé les Catalans, 44 à 22, là. Et côté vignerons, ils ont été comment?
Non, on nous avait dit, et un peu promis l'enfer, mais c'est complètement faux. Voilà, tout le monde est très bienveillant avec nous. Nous, on vient pour reprendre une exploitation, redynamiser une exploitation, pour continuer à perpétuer l'héritage, les traditions du coin. Et quand on arrive avec cette mentalité-là, en général, il n'y a pas de problème.
J'ai deux questions. Une question basique, ça correspond à quelle appellation? C'est Côte du Roussillon?
Alors, on est sur les terroirs des Côtes du Roussillon et nous, on est sur les terroirs plus spécifiques des Côtes du Roussillon village Caramani.
D'accord.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de domaines sur ces terroirs. Il y a le domaine Moda qui sont sur Cassagne, il y a nous, il y a le domaine Réveil aussi et des caves coopératives, le domaine Ribérac, entre autres. Voilà, on n'est pas beaucoup à être sur ces terroirs. Et comme je vous ai dit, la particularité, c'est le granit et l'altitude.
Et la deuxième question, c'est, on parle beaucoup de sécheresse dans cette région. Est-ce que vous en avez beaucoup souffert ou vous avez de l'eau?
Alors, on n'a pas eu beaucoup d'eau, malheureusement, depuis 2022. On est sur une sécheresse assez historique. Maintenant, on est sur des rendements qui sont assez bas, historiquement, autour des 20-25 hecto-hectares.
David Cobold, c'est pas beaucoup, hein?
Non, c'est très bas.
C'est bas, voilà. Maintenant, c'est des rendements qui sont atteignables, même sur des années assez sèches. La vigne arrive à aller prospecter dans des horizons très profonds et à nous donner quand même ça. Et puis, bon, forcément, inversement proportionnel, on a une qualité qui est très jolie en cave.
En plus, c'est un territoire où on trouve beaucoup de vieilles vignes. Est-ce que c'est votre cas?
Complètement. Nous, les vignes les plus jeunes, bon, sont celles qu'on a plantées cette année, mais avant ça, elles ont une vingtaine d'années. Et après, on va directement sur des vignes qui ont plus de 40, 50 ans. Et on a des vignes centenaires. Des parcelles pas faciles à travailler, forcément, les vignes étroites.
Oui, donc avec des rendements aussi qui sont faibles.
Et avec les rendements qui sont faibles, évidemment.
Voilà. Et la gamme de prix, parce qu'il faut essayer de valoriser le travail, quand même.
On commence à 14 euros et on monte jusqu'à à peu près 29 euros, 30 euros sur les vieux millésimes.
Parce qu'il faut aussi tenir compte de la difficulté du travail et le rendement très faible. Et ça, cumulé, fait que le coût à l'hectolitre ou à la bouteille, peu importe.
Oui, parce que le travail en altitude comme ça et sans doute en terrasse,
demande un travail manuel.
Complètement. Il y a beaucoup de travail
manuel. Ce n'est pas si cher par rapport au travail et au faible rendement.
Et puis c'est compliqué de se positionner hors marché, entre guillemets. Donc il faut quand même rester cohérent avec le marché.
Et vous avez pu hériter justement du marché des prédécesseurs,
Oui, on a hérité d'une belle image. Le domaine a une belle image, une belle réputation. Il est connu pour ses vins de qualité.
On n'a pas dit d'ailleurs le nom du domaine.
Ah oui,
on l'a dit tout à l'heure, le Clos de Loum. Ça veut dire quoi d'ailleurs, le Clos?
Alors c'est le Clos, le Clot, parce qu'il y a un T à la fin, et ça veut dire le Vallon de l'Orme.
Voilà, le Clot de l'Orme.
Voilà, le Clot pour le Vallon et Loum pour l'Orme, l'essence, l'arbre. Ouais. Donc historiquement, il devait y avoir des ormes, on n'en a plus beaucoup. Mais peut-être.
Est-ce que vous ne faites que des vins secs ou vous faites aussi des VDN?
Non, on ne fait pas de VDN, on n'est que sur des vins secs. Que du vin sec. Blanc et rouge.
Et quels sont vos objectifs justement avec votre frère?
De développer l'exploitation, de valider notre installation, on va dire.
Oui, parce que peut-être que le chai est à refaire, non?
Alors le chai, on a des outils de travail qui sont quand même en bon état. Le challenge est plutôt côté vignoble, je dirais, parce que comme on a dit, il y a beaucoup de vieilles vignes, donc on a des vignes à replanter, du travail, du remaniement à faire.
Et
un
en
petit
tant
peu
que jeune agriculteur, vous avez des aides pour améliorer votre outil de travail?
On a des aides, on a quelques aides, oui, sur notamment les plantations où on est majoré en tant que jeune agriculteur. Il y a quelques leviers, les PCAE, qui nous permettent d'investir un petit peu dans du matériel neuf, des choses où on est un peu majoré, on va dire, en tant que jeune agriculteur.
Alors, Eddy, on parle un peu des blancs, parce que les rouges, c'est une certitude, mais les blancs de cette région sont souvent sublimes. Qu'est-ce que vous avez comme type de cépage?
Alors, on a du grenache gris, du grenache blanc, du carignan gris, du carignan blanc, et le cépage endémique, le macabeu, qui est un cépage pyrénéen.
David Cobol, un commentaire sur les blancs du Roussillon en l'intérieur des terres, on va dire, oublions la côte pour l'instant.
Oui, c'est un trésor un peu caché et je trouve que le carignan blanc avec le macabeu sont particulièrement intéressants. J'ai goûté de magnifiques vins issus de carignan blanc parce qu'ils conservent beaucoup de fraîcheur. On aime parler de minéralité, je ne sais strictement pas ce que ça veut dire. Par contre, la fraîcheur est liée.
Complètement.
Et c'est des vins magnifiques.
J'en ai ramené quelques-uns.
les auditeurs vont se pointer, venir en courant ici. Et Laure.
Mais c'est vrai que parler des blancs, on ignore souvent à quel point les blancs du Sud ont cette tension, cette fraîcheur, vibration. Surtout dans cette vallée de la Glie, on trouve des terroirs vraiment très beaux.
On n'est pas sur la vallée de la Glie, on est vraiment entre les deux vallées. La vallée de la Tête et la vallée de la Glie, sur une crête qui s'appelle le Fenouillède, qui est un terroir bien particulier. Ouais. Et là, on a des schistes pélitiques, qui sont des schistes qui apportent une tension et une salinité au vin, qui sont assez, assez remarquables. Et comme vous dites,
après, la région souffre, les caves coopératives sont toutes en train de mourir les unes après les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider là? Parce que c'est tout un pays, un département, un peuple qui est en train de mourir.
Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire à part acheter les vins de la région? Je vois pas. Non, il faut peut-être revoir aussi certains schémas de vinif. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des questions à se poser sur le profil des produits. Est-ce qu'ils sont actuels? Est-ce qu'ils correspondent au marché, aux tendances?
Mais le fait que des jeunes comme vous qui s'installent, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Absolument. Et ça donne ça fonctionne bien, vous êtes content?
Ça va pour l'instant.
Donc vous engueulez combien de fois par semaine avec votre frangin?
C'est le début, je dirais, a été rock'n'roll. Là, ça va beaucoup mieux. Mais le début, le temps de prendre ses marques.
Est-ce qu'il y a un prix à l'hectare qui rend accessible les terres pour les jeunes?
C'est entre autres pour ça qu'on a glissé un peu plus à l'ouest. On n'avait pas de gros moyens forcément pour s'installer. Toulon et alentour, je vous fais pas un dessin, mais c'est pas très abordable pour des jeunes vignerons. C'est pour ça qu'on allait dans le Roussillon.
On est à quoi, 10 000, 15 000 euros l'hectare?
Dans ces eaux-là.
On a des bonnes vignes.
Ça vous tente, Laure, de retourner?
J'ai déjà tenté.
Laisse à d'autres. Et pour les vins rouges, ce sont les vins qu'on peut attendre. Il y a un potentiel de garde également.
Il y a un joli potentiel de garde.
Rouge.
Complètement. Il y a des belles acidités dans les rouges. On est sur des terroirs où il y a peu de calcaire, donc peu d'argile, ce qui fait qu'on a des pH plutôt bas et des belles acidités qui font des belles colonnes verticales. vertébrale pour faire de longues gardes. Voilà, donc
longue garde, c'est combien? C'est plus de 8 ans?
J'aurais tendance
ans,
à. Moi, sur le recul que j'ai et sur les vins que je peux avoir en cave et que je goûte, oui, 15, 20 ans dans ces ordres de grandeur-là. J'irai pas m'aventurer beaucoup plus.
Après, la question pour la plupart des consommateurs n'est pas celle de garde.
Oui, c'est
parce
ça.
Que statistiquement, dans le monde, 90% des bouteilles vendues sont bu dans le mois qui suit l'acte d'achat. Mm-hmm. Donc, il faut quand même pas l'oublier.
Ça concerne les vieux auditeurs dont on fait partie. Et pour terminer, Eddy, la température de service hein, pour les blancs et pour les rouges.
Ah, pour les blancs, moi, je les aime bien frais. Voilà, donc j'irai plutôt sur du 11-12 degrés dans ces ordres de grandeur-là. D'accord. Et pour les rouges, j'aime bien les servir un peu frais, les laisser se réchauffer dans le verre.
Donc
plutôt, voilà, 14-15.
Bon, vous voudrez rappeler le site internet, une adresse peut-être pour vous suivre.
www.clodelume, donc clos avec un t.com et sur Instagram, sur Facebook.
Merci beaucoup, Eddy Bertrand. Merci également à Laure et David. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas située à Paris, celle qui est située exactement au 142 rue de Rivoli sur 99.9. Et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux et le compte Insta Invino Sud Radio. On retrouve David Cobold, toujours anglais d'ailleurs, et le Vino Quiz, mon cher David.
Un jour, je ferai une chronique sur l'horreur qui est la rue de Rivoli.
La rue de Rivoli à Paris.
Oh putain, oui, mais ils l'ont massacré.
Ah, c'est vrai qu'à l'exception de la boutique Nicolas, il n'y a pas grand-chose.
Oui, à l'exception de la boutique Nicolas, évidemment. Bon, alors, le sujet du jour, c'est le quiz.
Absolument.
Donc, il y a un quiz cette semaine qui porte sur comment gagner un coffret gourmand de Château d'Oyac dans le Bordelais. Donc, la question de cette semaine, la semaine passée, était où se situe le domaine du Bagnol en Provence. Option A, Bagnols-sur-Mer. Option B, Cassis. Option C, Beaune. Évidemment, le C, c'est complètement déconnant. La bonne réponse, c'est Cassis.
Cassis.
Nouvelle
cette
question.
Semaine,
hein. Nouvelle question. Quel est le lien entre Eddy et Arthur, qui dirigent ensemble le domaine du Clos, C-L-O-T, de Loom.
Clot
de Loom, dans le Roussillon. Option A, ami d'enfance. Option B, cousin, germain ou pas. Option C, frère. Donc, pour répondre, j'espère que vous avez bien écouté l'émission.
Absolument, oui.
Rendez-vous toute la semaine sur le site Invino Radio, c'est tout attaché avec un point à la fin, et puis TV, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort.
Merci beaucoup, David Cobold.
Parmi les bonnes réponses, quand
absolument,
même.
Absolument. Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir maintenant Marc Benin, gérant du domaine de Ravanès. Nous sommes dans le Languedoc. Bonjour, Marc.
Bonjour.
Alors, un mot sur votre vignoble. Hein. Vous êtes dans un environnement qui est juste exceptionnel, hein. Chargé d'histoire aussi. Hein.
Oui, oui, bien sûr, oui. C'est une villa gallo-romaine au départ, et puis ensuite qui était sûrement en polyculture, et puis qui est aujourd'hui consacrée entièrement à la vigne. Et bon.
Enfin, vous trouvez parfois des vestiges
absolument,
romains
absolument,
en travaillant la terre
depuis, on va dire, une soixantaine d'années qu'on remue le. Le
Qu'est-ce
sol,
vous avez trouvé quoi,
on
par
trouve
exemple,
de la tuile romaine comme dans tout le bassin méditerranéen. On trouve. Il y a eu des vestiges vraiment importants, genre une vierge noire,
ah oui,
des choses comme ça, oui, qui ont été, disons, déterrées dans les années 50 et qui sont dans des musées maintenant.
Et alors, ce trésor des Templiers, là, il est comment?
Mais je le cherche encore, vous voyez.
Alors.
Et donc, racontez-nous, ça fait un moment que vous travaillez vous-même, c'est un domaine familial?
Alors oui, acheté par mon grand-père en 1955, nous venons de l'autre côté de la Méditerranée, hein, donc nous sommes des pieds noirs, on vient d'Algérie. Et mon grand-père était courtier à Oran et donc brassait
Il a senti le vent tourner très tôt. Il a senti le vent tourner très tôt.
Absolument. En fait,
il
s'agissait d'un investissement pour occuper mon paternel qui était très remuant. Voilà, et qui a une grosse personnalité.
Ça veut dire quoi, remuant?
Remuant, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'énergie et il est arrivé à l'âge de 21 ans et il a appris, si vous voulez, le métier d'agriculteur parce que nous, on vient d'une famille de négoces courtage.
Oui.
Donc, mais avec une grosse expérience de la vinification en pays chaud et ça, c'était.
C'était un vrai plus, quoi. Ouais, alors aujourd'hui, il y a combien d'hectares au total, Ravanès?
Alors, le domaine fait une soixantaine d'hectares. Et on en a aujourd'hui 32 consacrés à la vigne. Le reste étant des semis en bio en partenariat
avec... Des vierges noires,
non, c'est pas ça. Non, vous êtes, donc, quand votre grand-père a acheté, c'était quand même un territoire de cave coopérative.
C'était un domaine particulier, c'était un domaine, une cave particulière, et on n'a jamais eu de part de coopérative. On n'en a jamais eu besoin. Et
donc la première mise en bouteille, c'était 1955 ?
Ah non, non. Justement, en 1955, mon père a mis à peu près une quinzaine d'années à se former. Au... Ah,
pour un type actif, quand même, 15 ans, c'est
non,
long,
non ? Mais c'est pas ça.
Ah
c'est
bon, d'accord. Oui.
Parce qu'il faisait beaucoup de choses à côté,
mais on vendait le vin en vrac.
Ah d'accord. Ouais.
Voilà, c'était des, c'était ces gros domaines de l'époque. C'était
ce qu'on appelait les pinardiers d'ailleurs.
Voilà, ouais. Tout à fait. Bon, d'ailleurs, historiquement, on n'en a pas trop. Enfin, on en a.
Oui, c'est historiquement.
Ça s'appelait comme ça. C'était des très belles maisons bourgeoises qu'on appelait.
Économiquement,
les maisons
ça, pinardiers. Ça a bien fait la fortune des Languedociens pendant jusqu'au moins aux années 50. Hein. Les châteaux.
Et alors aujourd'hui, comme c'est pas, vous avez quoi exactement, Marc ?
Alors nous, on a. Alors mon père a initié d'abord les plantations de Merlot et de Cabernet Sauvignon dès les années 70. D'accord. Donc il a été pionnier là-dessus. Et moi, j'ai. Alors, on a aujourd'hui une bonne petite quinzaine de cépages différents. Mmh. On en plante toujours des nouveaux. On expérimente beaucoup. Bon, ça vient un peu de mon passé dans la recherche, puisque moi, j'ai fait un doctorat d'œnologie en pélologie à l'Université de Bordeaux. Alors voilà,
vous avez déjà planté, si vous voulez, quel cépage vous avez planté qui est nul chez vous ?
Qui est nul ?
Oui.
Non, mais disant, c'est vraiment ça, pas le truc à planter.
Ça, c'est n'importe quoi comme question. Alors,
je vais vous dire une chose, ça va peut-être faire bondir certains languedociens, mais vous voyez, je me suis débarrassé du carignan, moi. Voilà.
Ah, vous avez fait un choix,
c'est ça ? Oui. Ouais.
Bon, alors, okay. Ça, mais alors, à l'envers, alors... quels sont les cépages intéressants que vous avez plantés ? Peut-être venus d'ailleurs.
Alors oui, donc quand je dis cépages, une quinzaine de cépages, donc on a les classiques, bon, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. Moi, j'ai introduit le Petit Verdot dans les années 90, très intéressant. Et surtout, depuis une dizaine d'années, on développe beaucoup les blancs, et notamment Grenache Gris. Alors, on travaille sur des vignes qui ont 90 ans. Une partie des... Et ça m'a donné le goût de replanter du Grenache Gris, parce que je trouve qu'il est très, très bien adapté à nos sols et puis à notre climat. Mais par ailleurs, pour amener de l'acidité et de la fraîcheur dans les vins, j'ai planté du Petit Mansingue, j'ai planté du Colombard. Voilà.
Que des cépages français, alors, pour l'instant.
Non. Et le dernier en date, qui a déjà 2-3 ans, du Souvigné Gris.
Ah oui.
Du quoi, du ?
Du Souvigné Gris, un hybride allemand créé en 1982.
À partir de quoi et quoi ? Quel type, que sont les parents ?
Ah, alors les parents, c'est le Brenner, et en principe, mais il y a encore débat parce que c'est pas tout à fait sûr. Il y aurait du Riesling et peut-être du Gewürztraminer.
David Kobold, vous avez inquiété sur la problématique génétique ?
Non, ça c'est une colle. Alors si c'est un hybride, c'est bien un hybride, donc il y a une partie américaine.
C'est un hybride résistant aux maladies, donc à l'oïdium.
Bon, l'or qui n'est pas un hybride.
J'espère. Mais du coup, vous en avez planté beaucoup de cet hybride ?
Alors on a planté une expérimentation, 80 arts en 2019. Le résultat était tellement époustouflant qu'on en a replanté 1,5 hectare de plus.
Et du coup, comment le traitement sur cette vigne-là ?
Zéro traitement. Bordure de rivière, j'avais des problèmes de mildiou, zéro traitement.
Et c'est intéressant parce que même avec les années, il n'y a toujours aucun traitement parce que parfois on a des retours un peu différents.
Ils préconisent, si vous voulez, les pépiniéristes, disons ceux qui l'ont travaillé, et il est en train de se généraliser, mais pas que lui, avec beaucoup d'autres en Languedoc. Les facteurs de résistance pour l'instant n'ont pas été contournés, alors que c'est une monorésistance. C'est pas la dernière génération des hybrides, mais il a 25 ans de recul en Allemagne.
C'est bien, c'est vrai.
Et ça, s'il y a eu un problème.
C'est pas le même climat en Allemagne,
c'est amusant parce que vous parliez tout à l'heure de climatologie du Sud, et finalement vous avez planté des cépages du Nord.
Oui, parce que moi je suis dans un bas-fond, dans la plaine, sur des graves et des sables.
Vous êtes où exactement ?
Alors, 12 km au nord-ouest de Béziers, le tout début du Saint-Chinian, de l'appellation Saint-Chinian, mais j'y suis pas. Et heureusement, mais...
C'est très bon, le Saint-Chinian.
Non, c'est pas ça, j'ai dit heureusement pour ma liberté de création.
Parce que du coup, vous êtes en vin de France, c'est ça ?
En IGP Hérault. Ouais. En IGP Hérault, avec une mention complémentaire Coteau de Muriel, ça j'y tiens un peu parce qu'on est pratiquement les seuls à soutenir cette zone, si vous voulez, microzone, bien sûr. Et voilà, donc. Je suis en pleine. J'essaye de l'être le plus possible, et surtout dans la création.
Du coup, est-ce que vous avez prix de l'irrigation? Est-ce que vous êtes allé vers ça?
Alors, on ne crache pas dans la soupe. Hein. Quand on a l'irrigation, je pense que celui qui la refuse... aujourd'hui...
Non, mais ça fait partie
alors,
des évolutions
du Languedoc. On a la chance d'avoir le baron de Languedoc qui a fait tous les gros ouvrages dans les années 60-70.
Voilà. Alors la gamme de prix là, donc, Marc, chez vous, donc ça va de combien?
Alors ça va d'une dizaine d'euros pour les cuvées faciles à boire sur le fruit, etc., jusqu'aux grandes cuvées. Les grands rouges, c'est 32 euros. Et après, on a aussi quelques vins exceptionnels qui ont été faits qu'une fois ou deux. On a fait des vendanges tardives aussi, vous voyez, des choses comme ça. Enfin, on s'est essayé à peu près à tout.
Et, je vois que vous amusez bien, hein.
Comme un fou.
Vous êtes combien à travailler sur le vignoble?
Alors, j'ai la chance d'avoir mes enfants. J'ai été seul pendant une vingtaine d'années après la prise de retraite de mon père. Et aujourd'hui, j'ai mes trois fils.
Vous êtes un homme heureux, Marc. Merci beaucoup, Marc. Merci également à Laure Gasparotto, Eddy Bertrand, David Cobold, aux millions d'amateurs de vin qui nous suivent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission très bien, comme d'habitude. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les pages Facebook, le compte Insta. Et on se retrouve demain. Ça sera à 13h précise pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Laurent Fayolle, vigneron à Crozes-Hermitage. Georges Richard, également le président, l'excellent président de l'Atelier du Vin. Nous serons à Paris. Et d'ici là, excellente suite du samedi. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.